Il y a 50 ans, l'AS Saint-Étienne entrait dans le cœur des Français malgré sa défaite en finale de la Coupe des clubs champions face au Bayern Munich. L'After Allemagne ouvre la boîte à souvenirs avec le capitaine des Verts de l'époque, Jean-Michel Larqué.
RMC After Allemagne,
Jérôme Sillon.
Salut à tous, merci de votre fidélité à l'After Allemagne, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode, n'hésitez pas à mettre une note ou à écrire un commentaire. Chaque semaine, vous le savez, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football allemand avec notre drôle de dame Polo Breitner. Salut Polo.
Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde.
Et donc avec notre capitaine de la Dream Team RMC Sport, Jean-Michel Larqué. Salut Jean-Michel.
Bonjour les amis, bonjour.
On va donc revenir sur ce mercredi 12 mai 1976. La France entière était au soutien des Verts qui défiaient le grand Bayern en finale de la Ligue des Champions. Mais la bande à Franz Beckenbauer et Gerd Müller va écœurer l'AS Saint-Etienne, la légende des poteaux carrés, une épopée européenne mémorable, un lien avec le football allemand très particulier. On va parler de tout ça avec toi capitaine et avec Polo Breitner. C'est parti pour l'After Allemagne.
After Allemagne.
Alors Jean-Michel, déjà, en quoi la préparation de cette finale n'avait pas été optimale? Je crois qu'il y avait des joueurs cadres qui s'étaient blessés lors d'un match en retard, c'est bien ça, juste avant le match à Glasgow?
Ah, je ne sais pas si c'était un match en retard, mais oui, c'est une légende parce que le football entraîne parfois des blessures idiotes et... c'est vrai qu'on avait rencontré une équipe de Nîmes qui n'avait pas la réputation d'être une équipe très tendre. Mais ce match-là n'avait pas été plus violent que d'autres. On l'avait gagné très facilement. Je crois qu'on avait gagné 5-1, me semble-t-il, quelque chose comme ça. Peut-être que Polo s'en souvient. Pour moi, ce sont des blessures idiotes qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Le seul problème, c'est que on avait un absent de marque dans chaque ligne. Gérard Farizon était absent en défense, Christian Sinagel était absent au milieu de terrain et Dominique Rocheteau était absent en devant. Et comme à l'époque, les effectifs n'étaient pas tellement pléthoriques et qu'on faisait une saison à 20 joueurs, et quand je dis 20 joueurs, je suis généreux, et que l'on avait à peu près toujours, il n'y avait pas beaucoup de turnover, on ne tournait pas beaucoup dans ces moments-là. Évidemment, ça représentait quasiment le tiers des joueurs de champ qui étaient absents, qui étaient indisponibles. Mais c'est une légende, je vais vous dire pourquoi, Jérôme, ou je vais te dire pourquoi, Jérôme, parce que il y a un joueur qui aurait peut-être pas joué cette finale-là, qui s'appelait Christian Saramagna, s'il n'y avait pas eu autant de blessés. Or, Christian Saramagna, cette finale, il a été élu meilleur joueur de la finale. Donc, vous voyez, on ne va pas s'arrêter sur ces faits qui sont inhérents à la pratique du football. Mais il y a d'autres aventures et d'autres légendes qui sont pas plus, comment dirais-je, qui ne sont pas à retenir davantage que ça. Et je pense notamment à l'histoire des poteaux carrés.
Bon, on va y venir, mais déjà, on remarque quand même que tu as mis un survêtement rouge. Ça veut dire que tu n'as plus peur du rouge, Jean-Michel. Tu n'en as jamais eu peur parce qu'on sait que les Lyonnais ne portent jamais de vert. Toi, face au Bayern Munich, ça ne te dérange pas de porter du rouge?
Non, mais je porte du rouge parce que c'est mon club formateur, la JAB de Pau, et que je suis souvent habillé avec ce qui ont été les couleurs de mes débuts. Et les couleurs de mes débuts, c'était du rouge et blanc. Il me semble qu'il y avait un adversaire en 76 qui portait aussi du rouge et blanc.
Justement, Polo, dans quel contexte le Bayern arrive en finale face à l'AS Saint-Etienne? À l'époque, c'est une équipe du Bayern qui n'est pas championne d'Allemagne en titre, c'est ça, et qui n'a pas fait une campagne européenne très impressionnante, notamment à l'extérieur.
Oui, mais c'est surtout, tu l'as dit, ce n'est plus la meilleure équipe d'Allemagne. Il y a juste un petit club qui s'appelle le Borussia Mönchengladbach qui est en train de mettre des pâtés à tout le monde. Et en fait, ce qu'on oublie beaucoup dans ce Bayern 76, c'est que c'est pas tout à fait celui de 74. Différents joueurs sont déjà partis. Il y a déjà un paquet de joueurs à plus de 30 ans. Beckenbauer, évidemment, Zettmeier, Gerd Müller. La nouvelle génération arrive. Alors, bien entendu, c'est un joueur comme Rummenigge, donc c'est pas mal. Mais quand même, c'est un Bayern vieillissant. C'est un Bayern, et tu l'as dit, qui n'est pas champion et qui est en Ligue des champions, pardon, en Coupe d'Europe des clubs champions, parce que chaque année, il la remporte, souvent avec chance d'ailleurs. En 74, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. En 75, il ne s'était pas aussi en finale, d'ailleurs à Paris, au Parc des Princes, ce n'était pas la meilleure équipe. Et en 76, on va sûrement parler des poteaux carrés, même si c'est pour moi une légende. C'est vraiment une équipe qui est en fin de cycle. Et d'ailleurs, dès l'année d'après, 76-77, le club du Bayern va complètement exploser avec des problèmes financiers. Mönchengladbach se balade, ils ont juste un seul défaut, c'est qu'ils ont une bête noire, c'est Liverpool en face, qui leur empêchera de gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Mais le Bayern, il faudra attendre 1980 pour retrouver un titre en Bundesliga. Donc c'est quand même assez compliqué cette période-là pour les Bavarois. Et encore une fois, ils ne sont en Coupe d'Europe des clubs champions que parce qu'ils ont remporté 74-75, ce qui permet au passage de payer les salaires en fin de mois. Parce qu'à l'époque, et ça on l'oublie complètement, c'est qu'il n'y a pas forcément de modèle économique, et Uli Hoeneß n'est pas encore, et toujours sur le terrain, n'est pas encore dans les bureaux, et il n'a pas encore mis sa doctrine en place, c'est-à-dire nous ne dépenserons que l'argent que nous avons, et tout ça fait que le Bayern est très compliqué. Alors, je ne vais pas rentrer dans les histoires, il y a même des interventions du ministre-président en Bavière, comme quoi il faut essayer de garder tous les joueurs, ça monte jusqu'à Berlin, enfin à l'époque, pardon, excusez-moi, c'est Bonn, pour dire il faut absolument que les joueurs restent en Bavière parce que c'est important pour le standing du football allemand et tout ça. Donc, on va dire, quand on voit comme ça, on dit « ouais, le Bayern des années 70, c'est monstrueux, etc. » Mais quand je vois l'équipe, et Jean-Michel a tout à fait raison, aujourd'hui, c'est 50 ans après. Mais quelle équipe française aujourd'hui peut se permettre d'avoir sur le terrain, et je fais ça de mémoire, donc si Jean-Michel, si je dis une erreur, Jean-Michel, tu peux me corriger, il y a 9 internationaux français, il y a Kurkovic, le Yugo, il y a Piazza, évidemment, l'Argentin. C'est quand même une équipe assez extraordinaire qu'on a à Saint-Étienne. Je veux dire, si aujourd'hui on devait mettre 9 internationaux français sur les 11 dans une équipe française, vu le niveau des Français, ce serait quand même une équipe assez surprenante et assez fabuleuse. Et moi, c'est ce que j'aime dans l'AS Saint-Étienne 76, qui, quand je compare un peu en histoire, me fait souvent penser au Borussia Mönchengladbach, non titré aussi en Coupe d'Europe des clubs champions, avec une équipe plus conservatrice qui gagne plein de titres. N'oublions pas que cette année-là, Euro 76, la RFA perd aussi la finale du championnat d'Europe. C'est-à-dire que c'est vraiment une fin de cycle qui se passe et il faudra attendre quelques années avant de retrouver un Bayern très impressionnant.
Jean-Michel, ça représentait quoi à l'époque pour vous d'affronter le Bayern en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions? Je rappelle que tu as affronté 4 fois le Bayern dans ta carrière, notamment vous l'aviez affronté en demi-finale la saison d'avant, donc 74-75. Ça représentait quoi le Bayern à l'époque?
Ça représentait le début de l'aventure européenne, parce que j'étais de la génération avant, celle qui a été quadruple champion de France entre 67 et 70. Et qu'à cette époque-là, nous avions éliminé le Bayern Munich. Alors, si nous n'avons pas eu de chance en 76, lors de cette confrontation, ce devait être, je ne sais pas si c'est pas, ce devait être en 68 ou 69, je dirais plutôt 69. Lors de cette confrontation, au match aller, on avait perdu 2-0 à Munich dans le vieux stade du Bayern. Et je crois qu'ils avaient dû frapper 3 ou 4 fois les poteaux. Et au retour, on avait inversé la tendance. Mais il est gentil, mon Polo, mais il oublie quand même qu'il y avait des internationaux. Certains étaient un petit peu âgés ou ne jouaient plus dans leur équipe nationale, comme Ivan et Osvaldo, Polo. Et puis, il y avait de très jeunes internationaux chez nous. Les Repellini, les Saramagna, les Dominique Rocheteau, les Dominique Battenet, ils avaient Christian Lopez, ils avaient une ou deux saisons de football international en sélection nationale dans les pattes. Moi, ce que je n'oublie pas, c'est qu'en face, on avait la moitié, c'était en 76, c'est pas loin de 74-76, on est deux saisons après. Et deux saisons après, on a face à nous la moitié de l'équipe championne du monde. Donc, si vous voulez, j'aime bien que Polo essaie de dire, oui, c'est vrai que Mönchengladbach était une équipe redoutable, était une équipe qu'on avait rencontrée d'ailleurs avec l'équipe de France pour un match qui était au profit de l'UNFP à l'époque, et nous avions gagné 5-1 ou 5-2. Et Polo, et c'est la seule fois où j'ai porté ensuite un brassard avec un vrai brassard de capitaine, parce que je l'avais chiné à Bertie Fox. Je trouvais ce brassard très beau. Et donc, je lui avais volé. Puis un jour, on me l'a volé. Et donc, ce brassard a disparu, à mon plus grand regret. Et par la suite, eh bien, on mettait simplement une petite bande d'élastoplaste. Mais tu les rappelles, les Beckenbauer, les Seppmayer, Beckenbauer, Schwarzenberg, Hoeneß, Rummenigge, Gerd Müller. Roth était international, il n'était pas dans l'équipe champion du monde, il n'était pas titulaire. Mais enfin, c'était quand même encore du très solide et nous étions un tout petit peu impressionnés aussi parce que on avait beaucoup de mal à leur claquer des buts, à leur marquer des buts. C'était, je ne sais pas quel était le problème, alors que quand on voyait en Bundesliga, il y avait des scores qui étaient souvent flatteurs, mais déjà on avait du 5-2, du 4-3, ça, et nous on n'arrivait pas à leur claquer un but, et c'était terrible, alors que dans la génération précédente, on leur en avait mis 3 à Saint-Étienne et on avait provoqué une élimination surprise. Et la véritable aventure de la Coupe d'Europe, elle commençait là, Jérôme, c'est-à-dire quand l'équipe de Saint-Étienne est capable d'éliminer le Bayern Munich. C'est de là qu'est venue cette fameuse phrase, je ne sais pas de qui elle est, on joue à 11 et c'est l'Allemagne qui gagne à la fin. Ils gagnaient tout, hein. Ils gagnaient tout, ils enfilaient les titres, ils enfilaient les récompenses, ils avaient les ballons d'or, ils avaient les meilleurs buteurs. Donc pour nous, c'était quand même cette équipe qui était très très jeune, très très jeune. N'oublions pas que 6 ans auparavant, les garçons avaient donc 18 ans. Il y avait plus de la moitié de l'équipe qui avait gagné la Gambardella à ce moment-là. Ils avaient 18 ans. Et nous, on avait une équipe très jeune et un petit peu impressionnée.
C'est Gary Lineker, hein, quelques années plus tard, qui avait dit ça, cette fameuse formule. Le football est un jeu qui se joue à 11 et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Donc C'était un petit peu plus tard. Alors ce soir, donc du 12 mai 1976 à Glasgow, dans le stade de Lambton Park, tu l'as dit Jean-Michel, ça avait été difficile pour vous de marquer. Vous trouvez deux fois les poteaux. Le premier, c'est Dominique Battenet à la 34e minute de jeu. Le second, c'est Jacques Santini à la 39e minute. Déjà, il faut que tu nous expliques quelque chose. Pourquoi les poteaux n'étaient pas ronds à l'époque, à Glasgow? Et est-ce que ça aurait changé quelque chose s'il l'avait été?
Alors d'abord, ils n'étaient ni ronds, ni carrés. Et non, mais je les ai vus, ils sont exposés au musée, ils sont légèrement elliptiques. Il n'y avait pas d'arête saillante, ils l'avaient un petit peu travaillé. Et figure-toi que cette histoire-là m'a permis par la suite de garnir un petit peu mes statistiques ou en tout cas mes commentaires. On disait que les poteaux étaient carrés, on va y revenir, et que le ballon sur un terrain qui était imbibé d'eau, lorsqu'il rebondissait, prenait de la vitesse. Et il y a des ingénieurs de Grenoble, des physiciens, qui un jour m'ont envoyé, alors j'ai pas tout compris, je avoue que j'ai pas tout compris, mais je les crois, qui m'ont prouvé par A plus B deux choses. C'est que les poteaux, qu'ils soient ronds ou qu'ils soient carrés, ou qu'ils aient une autre forme, légèrement elliptique, je ne sais pas, de toute façon, le ballon, il n'y a aucune incidence sur la trajectoire du ballon. S'il devait rentrer, il serait rentré. S'il est sorti, c'est qu'il devait sortir. Donc, bon. Tu vois, je suis en train de tuer une légende. Et la deuxième légende, c'est qu'ils m'ont prouvé par A plus B, j'ai pas tout compris, mais je les crois, que lorsqu'un ballon fusait, un ballon aérien fusait sur une surface mouillée, c'était parce qu'il y avait un rebond qui trompait un peu notre vue, mais que le ballon, à partir du moment où il avait touché une surface et qu'il y était, il n'accélérait pas, il freinait. Donc, aujourd'hui, pour les commentateurs, quand ils disent que le ballon est accéléré lorsqu'il fuse sur le ballon, c'est une erreur. Voilà, aussi.
Disons qu'il ralentit moins, peut-être. Voilà, on va dire qu'il ralentit moins s'il touche une pelouse très humide. Oui. Mais quoi qu'il arrive, il ralentit quand même.
Je ne sais pas s'il ralentit moins, mais en tout cas, il n'accélère pas, ça c'est sûr. Voilà.
Polo, une question pour Jean-Michel, peut-être, sur cette finale du 12 mai 1976.
Ah, j'en aurais plein, mais plus autour d'une bière, en fait.
Ça peut aussi, hein, ça peut.
Désolé, Polo, j'ai jamais bu de bière de ma vie, mais enfin bon, j'ai un effort pour toi.
Mais parce que, en fait, moi j'ai revu, évidemment, et donc je le dis souvent, la personne qui était fan de Saint-Étienne, c'était mon père qui était parisien, et la France était verte. Et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé à l'époque, parce que je comprenais pas. J'ai 5 ans hein, pendant la finale de 76, donc je vis avec un certain décalage après ce qui se passe et l'épopée des Verts. Justement, ce que je trouvais extraordinaire, même si évidemment, en tant que grand champion, que joueur international que tu as été, on parle pas assez du physique de Saint-Étienne à l'époque. Aujourd'hui, on dit les joueurs, c'est que des athlètes, etc. C'est les entraînements de Robert Herbin. Qui, apparaît-il, étaient tous les mêmes, tout le temps les mêmes, et qui étaient portés essentiellement sur la condition physique, ce qui faisait peut-être que ça permettait à la SSE de renverser des rencontres assez extraordinaires. Je pense à Kiev, je pense au fait à la demi-finale quand vous avez tenu contre une équipe qui c'était pas des manchots à l'époque, c'est le PSV Eindhoven, etc. Est-ce que tu penses que finalement, ton équipe, j'ai envie de dire, c'est que là, que tu as vécu avec la SSE, c'est plus une équipe de contrôle continu plutôt que d'examen.
Oui, on a réussi quelques examens quand même, Polo. On s'est pas écroulé lors de certaines finales de Coupe de France ou lors de certaines finales de championnat. On s'est pas écroulé. Mais tu as raison. Tu as raison, et il y a un chiffre qui résume tout là-dessus, et notamment en championnat, qui est la régularité même. Hein, le championnat, c'est être bon et ne jamais avoir de trous au cours de la saison. Et la saison avant, la saison de 74-75, celle qui est le début d'une épopée, parce que déjà à ce moment-là, il y a des matchs qui sont de qualité. On élimine, il y a des, évidemment, le plus grand fait d'armes, c'est Hajduk Split. Mais il y a déjà des matchs références à ce moment-là. Mais la plus grande réussite, Polo, et tu as un peu raison, c'est qu'on usait les adversaires, le public nous aidait un petit peu. Mais il y a un record qui tient toujours et qui est absolument fabuleux, dont on parle très très peu. C'est en championnat, en 74-75. C'était un championnat à 20 équipes. Il y a donc eu, si je ne m'abuse, 19 matchs à domicile. Savez-vous combien de matchs à domicile nous avons gagné?
19.
14.
19. Non, 19.
Ah
19.
Bon, je confonds avec 76. 14 et ouais, 5 matchs de budget, moi.
19 en 74-75, on gagne les 19 matchs à domicile. Donc, c'est vrai que tu as raison. C'est un créneau que les entraîneurs précédents oubliaient un petit peu, le physique. Mais il n'y avait pas 3 ou 4 séances, il y avait une séance, mais qui était très compliquée. D'ailleurs, elle était difficile pour ceux qui ne la connaissait pas. Je vous racontais une anecdote. Un jour, il y a Guy Dru, qui venait d'être champion olympique, qui vient faire une séance avec nous. Il n'a pas de chance, il tombe sur la séance du mardi matin, qui consistait à faire de la résistance force, résistance puissance, où les pulsations montaient facilement à 180, 185, 190, et puis récupération et on recontinuait. Il y avait les longueurs, il y avait les medicine balls, il y avait le saut à la corde. Et Guy Dru, le champion olympique du 110 mètres haies, Oh, je ne dis pas à mi-séance, je dirais au tiers de la séance, il a totalement explosé, mais totalement explosé. Voilà, c'était des séances qui étaient très difficiles. Et une autre anecdote, à un moment donné, Robbie avait voulu les remplacer, ces séances physiques, par des sorties au Bessa. Polo le connaît bien, c'est une petite station de ski de fond à la sortie de Saint-Étienne vers le col de la République. Et mes coéquipiers un jour m'avaient dit, Jean-Michel, va voir Roby, le ski de fond c'est bien, mais ces séances-là, cette séance-là, elle nous manque. Et donc on avait réussi à avoir et le ski de fond et la séance physique du mardi qui était appelée la séance des piquets. Voilà. Mais les piquets, c'était pas nous. Nous, on courait. Hein. Il y avait des vrais.
Jean-Michel, qu'est-ce qui reste là, 50 ans après cette finale de Glasgow contre le Bayern? Qu'est-ce qu'il reste? Il reste des souvenirs mémorables, il reste des regrets, il reste une épopée collective. Vous allez encore vous réunir, je crois, pour fêter tout ça, les anciens?
Oui. Bon, on se revoit déjà régulièrement. Je les avais réunis pour le 50e anniversaire de notre victoire en Coupe de France en 1975. Contre Lens, je les avais réunis au Stade de France il y a un an maintenant. On va se réunir évidemment avec sous l'égide de la Saint-Étienne qui nous invite à partager un bon moment. On se voit régulièrement. Alors on peut plus jouer au football, on fait des tournois de golf, on pousse la balle au golf. Alors oui, il reste des regrets. Mais ceux qui disent oh moi j'ai pas de regrets, nous avons beaucoup de regrets. Je ne sais pas de quelle manière ça aurait pu changer notre vie, j'en sais rien. Ça aurait déjà changé notre palmarès, ce qui n'aurait pas été mal. Mais on a eu beaucoup de regrets, et puis beaucoup de regrets parce que nous avons fait un bon match. Mais pour battre le Bayern, même si Polo dit que c'était un Bayern vieillissant et qui était devancé par le Borussia Mönchengladbach, il fallait, pour battre ce Bayern-là, il lui fallut être très bon. Voilà, et on avait fait un bon match. On n'a pas fait un très bon match. Voilà.
Alors, sur cette photo, là, Jean-Michel, on te voit qui échange le fanion avec, avec Franz Beckenbauer. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce moment-là, dans ta carrière, et qu'est-ce qu'il représente, cet ancien ballon d'or qui nous a quittés il y a maintenant quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça?
J'ai mal aux yeux quand je vois le short que je porte. Bon, c'était épouvantable. Mais ça représente. J'étais impressionné. Je regardais le football quand je pensais, je crois que quand je le regarde comme ça dans les yeux, je me rappelle ce que je voyais en 70 avec un Franz Beckenbauer, le bras en écharpe lors d'une demi-finale de Coupe du Monde contre l'Italie au Mexique. Et je me disais, tu te rends compte, l'arqué, toi, le petit joueur de la JAB, tu es en train de serrer la main et d'échanger le fanion avec Franz Beckenbauer, ballon d'or, immense personnalité. Oui, il y a des moments comme ça, tu te pinces pour te dire c'est vrai ce qui se passe ou c'est pas vrai. Voilà, moi, je suis pas blasé. Puis, une autre personne que je vois sur cette photo, Monsieur Palotaï, vous m'aviez dit que des coups francs à proximité de la surface des réparations, il fallait attendre le coup de sifflet pour qu'il soit joué. Je n'ai pas entendu le coup de sifflet avant que Roth me frappe. Je pensais que vous alliez le faire refrapper.
Oui, parce qu'effectivement, c'est Roth qui avait marqué ce but de la victoire du Bayern face à l'AS Saint-Étienne. Vas-y, Polo, une petite question pour Jean-Michel.
J'ai une vraie question, parce que je comprends l'histoire des regrets, parce qu'en tant que professionnel, évidemment, soulever la coupe aux grandes oreilles, c'était important. Mais moi, j'adore le football aussi parce que la petite histoire du football, entre guillemets, est souvent symbolique de la grande histoire. Et moi, Saint-Étienne, il fut une époque où, tu le sais mieux que moi, c'était les manufactures, c'était la mine, c'était la sidérurgie, c'était la fabrication des vélos, c'était la fabrication des armes jusqu'au FAMAS, etc. C'était un savoir-faire français qui s'associait parfaitement, je trouve, avec le club de Saint-Étienne, très populaire, mais le plus riche de France, ce qu'on oublie aussi souvent un petit peu. Et tout ça, entre guillemets, a disparu. Tu sais, il y a eu l'OPEP, la crise du pétrole en 73, etc. On commençait à avoir la désindustrialisation, etc. La sidérurgie, ça allait mal. Et moi, oui, tu n'as pas gagné cette coupe-là, Mais je trouve que Saint-Étienne, ce que tu représentes, ce que l'ASSE représente dans l'histoire de France, qui aujourd'hui, malheureusement, n'existe plus, parce que les secteurs d'activité évoluent, les crises, etc., fait que c'est une partie de l'histoire de France. Et pour moi, très clairement, si je te dis ça, c'est que c'est plus important que d'avoir remporté la C1. Sinon, tu ne serais pas, vous ne seriez pas descendu sur les Champs-Élysées. Et aujourd'hui, quand je vois des clubs qui gagnent des coupes, qui gagnent ceci ou des championnats, j'ai du mal à la mettre dans cette petite histoire, dans la grande histoire d'un pays. Et par contre, j'arrive très facilement à comprendre ce qu'était l'AS Saint-Étienne de l'époque, ce que ça représentait pour, entre guillemets, les petites gens. Il n'y avait pas forcément que des bourgeois qui parlaient football. Il y avait des personnes un petit peu différentes. Et je comprends pourquoi mon père, indépendamment des obédiences politiques, mon père était communiste, était un fan de Saint-Étienne. Est-ce que tu comprends ce que je te dis ? Ou qu'on soit, au
moins. Oui, Polo, mais je le sais, c'est une équipe qui a... C'est une ville qui a souffert, qui a énormément souffert. C'est une région qui a souffert. Et les gens, quand on souffre, y a deux façons. C'est de baisser les bras ou de se serrer les coudes. Et du côté de Saint-Étienne, on s'est serré les coudes autour de ce qui restait, d'une seule chose. Tu as raison. J'ai assisté, moi, à la fermeture du dernier puits de mine. La manufacture, la Manu est partie. Manu France a souffert. Les cycles sont partis. C'est une ville qui a énormément souffert. Il leur restait une fierté. Alors, j'ai beaucoup de regrets, mais j'ai quand même une fierté. La fierté, c'est d'avoir rendu justement fiers les Stéphanois. Et ma fierté, c'est d'aller aujourd'hui au stade et de voir dans une équipe qui se bat en Ligue 2, 35 000 personnes un mardi soir pour accueillir le Pau Football Club, le club de ma ville également. Et je me dis, il n'y a qu'à Saint-Étienne qui a ça. À Saint-Étienne, et on en est un peu responsable. Alors, j'ai des regrets, mais j'ai aussi une belle fierté. La mienne et celle de mes coéquipiers, pardon.
Oui, bien sûr. Et la fierté, évidemment, d'être entré, donc, du coup, dans le cœur des Français, l'épopée des Verts mythiques, donc, et cette finale de 1976. Merci, Jean-Michel. Bonne festivité, bon anniversaire, donc, avec tous les camarades de l'époque. Fêtez bien ça. Et puis, évidemment, c'est une finale qui restera dans nos mémoires encore très longtemps, comme l'a bien souligné Polo. Merci, Polo. Merci, Jean-Michel. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, merci évidemment, à l'After Allemagne. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.
RMC After Allemagne.